Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, nous allons revivre la 90e cérémonie des Oscars qui vient de s'achever à Hollywood. Palmarès, temps fort et réaction avec Stéphane Boutson. Parmi les nouveautés au rayon livre, Bernard Lehu nous présentera La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, un premier roman qui a tout pour devenir la nouvelle sensation en librairie. C'est notre coup de cœur et nous vous l'offrirons au 3210. Le chanteur Old Elaf continue de nous amuser tout en évoluant vers un style un peu plus sérieux dans son nouvel album Goliath qui vient de sortir. Il nous sera présenté par Stephen Bellery. Et puis à la télévision, ce soir, des films cultes, nous dira Isabelle Morelli-Bosque, Et Dieu créa la femme sur France 5, Série Noire sur Arte, ou encore Arrête-moi si tu peux sur C8.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Après la France et les Césars, vendredi, c'est Hollywood qui célébrait le cinéma cette nuit. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Vous avez suivi pour nous la 90e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Et si on regarde le palmarès, un vrai vainqueur se détache, c'est le film La Forme de l'eau du Mexicain Guillermo del Toro.
Oui, qui repart avec 4 trophées majeurs. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique pour le français Alexandre Desplat, on va y revenir, et meilleur décor. Cette fable sentimentale et fantastique dans l'Amérique des années 60, entre une femme muette et une créature mi-homme, mi-poisson, est une merveille, je vous en avais parlé à la sortie. C'est aussi un très gros succès dans le monde entier et c'est un conte très politique dans l'Amérique des années Trump sur le thème de la peur de l'étranger, la peur de l'autre. Paradoxe qui amusera sans doute un petit peu moins la Maison Blanche. Le sacre de Del Toro, c'est aussi celui du troisième réalisateur mexicain en 4 ans aux Oscars. D'où ce message du lauréat sur scène.
I am an immigrant.
Je suis un immigré comme Alfonso et Alejandro, et comme de nombreuses autres personnes. Au cours des 25 dernières années, j'ai vécu dans un pays, les États-Unis et le reste du monde. Je suis un citoyen du monde. Notre civilisation a pour objectif d'abattre les frontières.
The place I like to live
et l'endroit
the most is
dans lequel j'aime le plus vivre.
Because, in 2014, they came to listen to a mad
et la planète Terre.
4 Oscars donc sur 13 nominations pour La Forme de l'eau, dont celui de la meilleure musique pour le français Alexandre Desplat.
Oui, nouveau triomphe 3 ans après le Grand Budapest Hotel. Desplat est aujourd'hui le plus grand compositeur de la nouvelle génération, l'héritier de Maurice Jarre et de John Williams. Il a travaillé pour Stephen Frears, Jacques Audiard, Roman Polanski, George Clooney, Wim Wenders, Luc Besson. Il a même composé le thème d'Harry Potter. Je l'ai joint tout à l'heure alors qu'il sortait du Dolby Theatre Hollywood, sa statuette dorée à la main.
C'est une joie immense, et je suis très honoré, très heureux. Je suis surtout très heureux que le film ait reçu l'Oscar du meilleur film. Ça veut dire que tous les postes sont récompensés, c'est que l'objet lui-même est récompensé. C'est comme se retrouver sur une scène de théâtre à la fin du show et saluer le public. On est tous réunis et c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, peut-être, c'est que le film aussi soit récompensé. Guillermo, bien sûr, mais le film. Et pour moi, évidemment, avoir un deuxième Oscar, c'est dingue, c'est fabuleux.
Par rapport à la première fois, il y a 3 ans, pour le Grand Budapest Hotel, vous étiez ce soir favori, d'après ce que j'avais lu. Est-ce que vous y avez cru dès le départ? Est-ce que vous lisiez la presse en vous disant « oui, c'est vraiment moi cette année » ou est-ce qu'on reste dans l'attente jusqu'au bout?
Ah non, on reste dans l'attente jusqu'au bout. J'avais quand même en face de moi mon maître, qui est le maestro absolu, John Williams. Je suis allé le voir tout à l'heure et il me dit « non, c'est toi qui vas gagner ». Mais même quand John Williams vous dit ça, vous doutez quand même. On ne peut jamais savoir, c'est comme au flipper, c'est la troisième boule qui compte.
Pour terminer, Alexandre, on rêve souvent, nous ici, de France, de ces fameuses fêtes d'après Oscar, de ces soirées d'après Oscar. Je voudrais simplement que vous nous donniez votre programme là, dans les heures qui viennent. Vous savez où vous allez déjà là?
Ah oui, alors là, nous sommes au Governor Balls, on va dîner avec toute l'équipe du film. Là, je viens juste de faire graver la plaque qui va sur mon Oscar et de boire un petit peu trop de champagne déjà. Après, on enchaîne avec plusieurs fêtes. Il y a une fête chez Elton John, une fête chez le studio Force. Et puis après, nous allons la Vanité faire partie, qui est un peu la dernière sur la liste. Tout le monde se retrouve et jusqu'à pas d'heure, pas grave.
Eh ben, bon programme, belle nuit à vous en tout cas.
Merci Stéphane, je suis très heureux.
Et cette musique De La Forme de l'eau qui vaut donc son deuxième Oscar à Alexandre Desplat. Il parlait de John Williams, son maître, nommé ce soir, tenez-vous bien, pour la 51e fois aux Oscars pour la musique du dernier Star Wars, film qui est d'ailleurs reparti totalement en bredouille. C'est aussi le cas des autres Français qui étaient en course, notamment Agnès Varda et JR pour leur documentaire Visage Village.
On rappelle aussi Stéphane les vainqueurs dans la catégorie des meilleurs comédiens, bien sûr.
Gary Oldman était le favori, c'est donc le vainqueur logique pour un rôle typique à Oscar, celui de Churchill dans le film Les Heures Sombres. Et chez les dames, le sacre d'une icône du cinéma indépendant, marié d'ailleurs à l'un des frères Cohen, Frances McDormand, impériale dans Three Billboards, où elle entre en résistance contre l'inaction de la police après la disparition de sa fille. Lors de sa montée sur scène, la comédienne a prêté sa voix à la cause féministe.
If I may be so honored to have
c'est
all
un honneur
the female
pour moi
nominees in every category
que d'avoir
stand with me
toutes
in this room
les femmes
tonight.
Nommées dans
the
toutes
actors,
les catégories
Meryl,
ce soir, toutes les actrices, Meryl, lève-toi. Les productrices, les réalisatrices, les auteurs, les cinématographes, les compositeurs. Alors, regardez autour de vous, mesdames et messieurs, parce que nous avons toutes des histoires à raconter et des projets qui ont besoin de financement. Ce n'est pas la peine de nous en parler ce soir, lors de la fête. Invitez-nous dans vos bureaux dans quelques jours et là, on vous en parlera. J'ai deux choses à vous dire, mesdames et messieurs. Intégration et auteur.
Et en effet, quand toutes les femmes se sont levées, toutes les femmes nommées cette année, il y avait quelques silhouettes en fait dans une assemblée, évidemment fortement masculine.
Alors le droit des femmes, un thème qui a pris cette nuit à Hollywood toute sa dimension 6 mois après le scandale Weinstein.
Oui, mais qui a été abordé sobrement, par petites touches, parfois avec humour, comme dans le monologue du début signé Jimmy Kimmel, présentateur de la soirée, c'est la star de la chaîne ABC, et il s'est servi, écoutez pour cela, de l'emblème de la soirée, Oscar.
Oscar est toujours le numéro 1, c'est l'homme le plus respecté, le plus vénéré à Hollywood. Pour une raison simple, regardez-le. Il garde ses mains là où on peut les voir. Ne dit jamais la moindre grossièreté. Et surtout, aucun pénis. Rien du tout. Et ça, c'est typiquement le genre d'homme dont on a besoin à Hollywood.
Alors, parmi les autres faits d'armes de Jimmy Kimmel, un jet ski offert au lauréat qui aurait le discours de remerciement le plus court, une descente surprise avec Mark Hamill, Guillermo del Toro et Margot Robbie armés d'un canon à hot dog dans un cinéma voisin des Oscars en pleine séance, à la grande stupéfaction évidemment des spectateurs. Et puis alors, l'un des moments les plus drôles, la présentation de l'Oscar de la meilleure actrice. Jennifer Lawrence et Jodie Foster font leur entrée sur scène et Jodie Foster marche avec des béquilles.
Sorry, what happened to you?
Je suis désolée, qu'est-ce qui s'est passé?
Strip.
Elle me l'a faite à la Tonya.
Je préfère ne pas en dire plus.
Non, c'est
cool, you know, she tripped me once.
T'inquiète pas, elle m'a déjà fait un croche-patte.
Not talk about that. We're gonna get on.
On en parle pas. Il vaut mieux passer à autre chose.
She's always so nice at the lunch.
Elle est toujours bonne compagnie au déjeuner.
Pour la petite histoire, Meryl Streep était quand même nommée pour la 21e fois ce soir.
On termine en musique, Stéphane.
Oui, avec la chanson de l'année, là aussi ça nous ramène au Mexique, tiens. Décidément grand vainqueur de cette 90e édition, c'est Remember Me, titre principal du film d'animation Coco des studios Disney Pixar qui l'a emporté. Remember. La chanson de Coco, également sacré meilleur film d'animation. Côté Oscar technique, c'est Dunkerque, le film RTL de Christopher Nolan, et Blade Runner, le film RTL de Denis Villeneuve qui triomphe. 5 récompenses. Enfin, un mot de l'hommage aux disparus. Les visages de Jeanne Moreau et de Daniel Darieux ont été projetés sur scène cette nuit à Hollywood.
Merci beaucoup pour cette évocation de cette nuit des Oscars. Dans quelques instants, nous serons avec Bernard Lehu et La Chambre des Merveilles, le roman de Julien Sandrel.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Bernard Lehu, vous nous recommandez ce matin la lecture d'un premier roman qui paraîtra mercredi chez Calman Lévy et qui pourrait bien être la sensation du mois de mars en librairie. Son titre, La Chambre des Merveilles. Et vous avez rencontré son auteur, âgé de 37 ans. Il s'appelle Julien Sandrel.
Et c'est le privilège du beau métier que nous faisons tous ici dans Laissez-vous tenter, d'avoir parfois la certitude qu'on a découvert une pépite et qu'on a affaire à un talent en puissance. Voilà exactement ce que je me suis dit, Yves, en refermant La Chambre des Merveilles, le roman qui vous fera pleurer de bonheur.
Alors, je vous ai rarement entendu aussi élogieux. On brûle de savoir ce que ça raconte, cette histoire.
Une histoire d'amour fou entre une mère et son fils. Louis, 12 ans, est plongé dans le coma après avoir été renversé par un camion. Sa mère, Thelma, trouve dans la chambre de Louis un carnet dans lequel il a dressé la liste de toutes ses merveilles. Autrement dit, ses rêves de gosse, les expériences qu'il aimerait vivre au cours de sa vie. Alors, j'ai demandé à Julien Sandrel ce qui lui a inspiré le début de son roman La Chambre des Merveilles.
Un samedi matin avec mes deux enfants, on était sur un trottoir parisien en train d'aller à la piscine. Ils étaient tous les deux sur une trottinette et ils cavalaient assez vite sur la trottinette. Et en fait, j'ai eu un instant cette vision de me dire mais qu'est-ce qui se passerait s'ils ralentissaient pas au niveau du feu et qu'ils se faisaient percuter par une voiture, un camion, quoi que ce soit. Et je me suis dit... forcément, ta vie serait totalement chamboulée, totalement transformée. Tu pourrais plus continuer à vivre exactement comme tu vis aujourd'hui. Tu aurais forcément de nouvelles priorités.
Vous avez drôle d'idée quand vous accompagnez vos enfants à la piscine.
J'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées qui me passent par la tête en permanence. Pas toujours des idées noires. Mais en tout cas, effectivement, celle-ci m'a traversée comme ça un matin.
Et Julien Sandrel est décidément un orfèvre en belles idées romanesques jugées par vous-même. Il imagine que Thelma, la mère du petit Louis, décide d'accomplir ses merveilles, ses rêves à la place donc de son fils et de les lui raconter dans l'espoir de ramener Louis à la vie, une superbe trouvaille vraiment dont Julien Sandrel là aussi nous donne l'origine.
Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en nous, cette idée de réaliser ses rêves d'enfant. Donc peut-être que l'écriture pour moi c'était justement une sorte de rêve d'enfant que je suis en train de mener à bien, on va dire. Et c'est vrai que j'avais cette idée d'un personnage, Thelma, qui, elle, a mis un peu de côté ça, ses rêves d'enfant, et qui a grandi peut-être un petit peu trop vite, a l'impression d'avoir trouvé une sorte d'équilibre de vie avec sa carrière, sa vie de mère, et j'avais envie de la secouer un petit peu et de la remettre face à ses propres rêves à elle. Et ça me semblait intéressant de lui faire vivre des choses complètement farfelues et de la mettre face aux rêves de son fils pour qu'elle-même finalement se reconnecte à ses propres rêves.
Alors Bernard, quels sont les rêves de son fils, Louis, que Thelma va donc tenter de vivre.
Eh bien, passer une journée de ouf, comme Louis l'a écrit dans son carnet, à Tokyo, suivre un stage intensif de foot. Vous imaginez la mère, hein, dans le stage intensif de foot.
Bien sûr.
Se mettre à poil devant la prof que Louis déteste, ou retrouver son père, qu'il n'a jamais connu. Cocasse ou émouvante, les aventures de Thelma nous font passer du rire aux larmes. Et en contrepoint des expériences de Thelma, Julien Sandrel nous fait entendre la voix de Louis, qui écoute et observe sa mère du fond de son coma. Encore une belle trouvaille dans ce roman qui en est littéralement truffé.
Oui, c'était quelque chose qui était là depuis le départ. J'avais vraiment envie d'avoir les deux points de vue, puisque c'est vraiment l'histoire, une histoire d'amour finalement, l'histoire d'amour d'une mère pour son fils, mais aussi d'un fils pour sa mère. Et du coup, il me semblait intéressant d'avoir le point de vue de Thelma qui va vivre toutes les aventures de son fils, mais aussi le point de vue de son fils qui, lui, va entendre finalement certaines des aventures qu'elle va vivre. Et d'avoir son point de vue, son recul, son humour noir, je trouvais ça hyper intéressant et je trouve que ça rajoute une dimension, un petit grain de folie intéressant.
Une dimension et puis un petit grain de folie qui séduise en tout cas déjà bien au-delà de la France.
Mais oui, avant même la parution en France de La Chambre des Merveilles, 21 pays ont acheté les droits de traduction dans l'Angleterre, l'Allemagne, la Chine ou la Russie. Bref, là aussi un rêve éveillé pour Julien Sandrel, à qui j'ai demandé pour finir s'il sait livrer. Et puis alors il y a une adaptation au cinéma qui, qui est lancée. Alors j'ai demandé à Julien Sandrel, pour finir, s'il s'est livré au défi, à l'un des défis consignés par Louis dans son carnet des merveilles, écrire à soi-même une lettre, imaginant ce que l'on serait dans 10 ans, et la relire 10 ans plus tard, pile poil, pour se marrer, comme dit Louis.
Alors je ne l'ai pas fait exactement sous cette forme-là, mais je me pose régulièrement la question. Et d'ailleurs, c'est lors d'un de ces questionnements que je me suis dit qu'il fallait que je me mette à écrire. Et que si je ne me mettais jamais à écrire, eh bien, je risquais jamais de publier un seul livre.
Et donc, dans 10 ans, vous vous voyez où ?
Bah écoutez, j'espère que ce livre-là aura trouvé un public et que j'aurai continué à écrire et que j'aurai écrit de nombreux autres romans.
Ouais. On vous dit merde ?
Donc je ne réponds pas.
Vous prenez ?
Je prends. Parfaitement.
Ah ben dites donc comme vous y allez, hein. Oui. On a bien compris que vous êtes emballé par la chambre. Oui, vous ne nous avez pas habitués à ça, hein. Par la chambre des merveilles et que vous croyez énormément en son jeune auteur. Alors on fait
gagner les paris.
Bah oui, on fait gagner le premier roman de Julien Sandrel, qui paraîtra mercredi chez Calman Lévy. Pour cela, il faut répondre à votre question, Bernard.
Quel est le prénom du petit héros de la chambre des merveilles?
Réponse au 3210. Merci Bernard Lelu. Alors la musique tout de suite avec le chanteur amuseur Oldelaf qui est de retour. Ah. Il vient de sortir Goliath, son 8e projet musical. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré l'interprète de La Tristitude.
Oui, et qui à coup de buzz sur Internet a commencé à être perçu peut-être un petit peu plus pour un humoriste qui chante qu'un chanteur qui fait de l'humour. Avec ce nouveau disque, Oldelaf a voulu gommer les malentendus. Il livre 14 titres plus musicaux qu'auparavant, mieux produits, mieux chantés aussi. Exemple avec L'amour à l'hôtel Ibis.
Il y a eu le séminaire Mars à Charleville-Mézières pour parler des succursales. L'ouverture au Portugal, au dessert il y avait des crêpes, et le connard de la Saugerep. Je sais pas ce qu'il t'a dit, mais je sais que tu l'as suivi. J'ai été tout chamboulé, alors je me suis vengé. Je me suis tapé la stagiaire, et je lui ai même offert l'amour à l'hôtel Ibis, de 13h à 13h10. Une passion incontrôlable, le wifi est tout à fait potable. L'amour à l'hôtel Ibis, le cadre avec un iris. Le jour où l'on sera plus sûr, je l'emmènerai.
Oldelaf est toujours drôle, mais pas systématiquement. Certains titres sont tendres, d'autres presque sociaux quand il défend les différentes formes de famille. Pourquoi Oldelaf a changé? Réponse de l'artiste.
Le fait de m'être un petit peu arrêté dans une petite pause là pour faire d'autres choses, il y avait le spectacle clairement humoristique qui était La folle histoire de Michel Montana. Il y avait évidemment le côté chroniqueur qui a duré un an
avec Stéphane Bern.
Voilà, sur RTL, plusieurs parenthèses de comédiens. Tout ça m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé, mais a fait monter en moi peut-être le manque de chansons. Et chaque jour qui passait me faisait grandir l'envie de revenir avec un vrai album de chansons. Moi, je me suis toujours senti du côté chanteur parce que j'ai étudié la musique. Maintenant, évidemment que l'humour, je m'en suis toujours servi et il y a eu une évidence dans l'écriture et c'est ça qui a fait ma différence.
Et si Mike Brandt avait habité au premier étage, chanterait-il toujours aujourd'hui avec peut-être quelques bandages? Et aurait-il eu l'occasion avec l'autre François de chanter si celui-là avait eu quelques notions d'électricité? Et si James Dean avait été plus doué pour les virages, serait-il arrivé à bon port, aurait-il joué davantage?
Oldelaf a-t-il glissé une chanson complètement loufoque dont il a le secret?
Évidemment, cette fois, Oldelaf chante le crépi.
C'est la seule chanson pleinement engagée de cet album où c'est un vrai combat militant parce que là, on ne peut pas débattre avec le crépi, évidemment. Peut-être qu'il faudrait rétablir la peine de mort pour cette personne parce que c'est évidemment une vraie histoire. J'étais vraiment en train de refaire ma cuisine et quand on t'apprend qu'on ne peut pas enlever un crépi, cette matière dégueulasse, il faut vraiment refaire par-dessus. Intérieurement, je suis en pleurs. On peut dire ce putain de crépi, voilà. Tu peux essayer d'attraper quelque chose dans ta cuisine et tu te frappes le coude. Ça fait atrocement mal. Mon rôle de chanteur, c'est peut-être de prévenir le monde entier de problèmes comme celui-ci, donc j'avais fort à cœur de pousser un coup de gueule.
Qu'est-ce qu'un jour il lui a pris à l'inventeur du crépi? A-t-il vraiment eu le choix pour nous pondre un truc pareil? Une matière si moche et vieille qui fait mal et qui ne part pas. A-t-il été condamné, contraint voire même torturé un général nazi qui, tenant sa femme en otage, le força à faire outrage au mur de notre pays. Quand viendra enfin le jour où les gens vivront d'amour, le monde sera plus joli, il n'y aura plus de crépi.
Goliath, le nouvel album d'Oldelaf vient de sortir, il est déjà en tournée. Il chantera à Toulouse le 14 mars, le 22 mars à Bordeaux, le 4 mai à Nantes ou encore le 14 mai au Trianon à Paris.
Merci beaucoup Stéphane Bellery. Dans quelques instants, la télévision avec Isabelle Morelli-Bosque. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
la télévision, Isabelle Morini-Bosque. On va évidemment commencer par les audiences du week-end avec Médiamétrie.
Ben, volontiers. Vendredi, petite victoire de TF1 du grand concours avec 3 630 000 fidèles, seulement 250 000 de plus que la rediffusion du polar Lannister sur la 2. Samedi, deuxième victoire un peu amère de TF1 avec The Voice, en tête avec 5 340 000 téléspectateurs, mais c'est quasiment 1 million de moins que samedi dernier. Ouh. Audrey Fleurot étant brillamment deuxième sur la 3. Quant à hier, la 1 s'en sort également pas trop mal, avec 3 900 000 curieux devant Les Seigneurs, et le Jason Bourne étant deuxième avec 3 millions sur la 2. Que déduire de ces chiffres? Que TF1 paye sans doute la décision du groupe Canal+ de ne plus diffuser les chaînes du groupe TF1 sur ses bouquets. Même s'il est trop tôt pour sauter aux conclusions, le fait est là. Le public télé ne bénéficiant que d'un accès à la première chaîne, ça a été ma première surprise, hein, par l'offre Canal+, n'ont vu ni Quotidien, ni 50 Minutes Inside, ni Demain nous appartient, qui passe vendredi de 3 400 000 fanas à 2 700 000. Et cette baisse d'audience vaut pour tous les JT du week-end. Dès vendredi, le 20h de TF1 est battu par celui de la 2, 4 900 000 contre 5 800 000. En revanche, grosse consommation de la une en direct sur les smartphones, plus 63% depuis vendredi. C'est dire s'il est urgent d'attendre la suite.
Alors, côté programme, je sais que vous avez aimé Joséphine sur TF1, Éric Zoli sur la 2, mais je note de nombreux films ce soir.
Mais il y a quasiment que ça, comme par exemple La planète des singes sur M6, à l'affrontement avec Gary Oldman, qui a donc eu un Oscar cette nuit, Stéphane vous l'a dit. Mais ce n'est pas fini. On a également sur France 5 Et Dieu créa la femme, qui crée justement le mythe Bardot. Ce film de Vadim, censuré aux États-Unis, expurgé de 20 minutes de nu, raconte le quotidien tropézien de Juliette. Elle aime un homme, Christian Marquand, elle épouse son frère, Jean-Louis Trintignant, se laisse courtiser par un troisième, entre autres Kurt Jürgens. Et bien sûr, elle est détestée par sa tutrice.
Alors les petits, on s'est pas trop ennuyés?
Tu viens encore de danser?
Ouais.
Qu'est-ce que maintenant?
Dis-moi quelque chose.
Justement, j'ai quelque chose à te dire.
Chérie.
Je t'ai promis une surprise. La voilà. J'ai écrit à l'évêché. Je raconte ta conduite. Je demande qu'on te reprenne à l'institution Sainte-Marie. Tu vas retourner à l'orphelinat, jusqu'à 21 ans cette fois.
Voilà, ce film marque sa rupture avec son mari Vadim, dépassé par sa créature, et sa liaison avec Jean-Louis Trintignant, son époux dans le film. Devenue un mythe mondial, elle est constamment harcelée. La voici alors au micro du journaliste François Chalet.
Si je pouvais servir à ce que ça ne se reproduise plus pour personne, je serais contente que ça me soit arrivé. J'ai peur que malheureusement, le pli soit pris et que la presse continue pour une autre bébé qui viendra et que ça recommence indéfiniment. Et je trouve que ça ne devrait plus exister.
Il faut maintenant que vous trouviez une porte de sortie. Comment mettre un frein à la fureur de ce public?
Je ne sais pas. C'est vraiment un labyrinthe, on ne sait plus quoi faire. Quand il paraît un article faux et que je le dément, les gens pensent que je le dément parce qu'il est vrai. Si je ne le dément pas, on se dit elle ne le dément pas, donc ce qui a marqué est vrai. On ne sait plus quoi faire pour faire surgir la vérité. Je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça.
Autre classique ce soir, série noire d'Alain Corneau sur Arte avec Patrick Devers en VRP déjanté qui s'ennuie et finit par tuer la riche tante de la jeune prostituée qu'il aime, c'est Marie Trintignant. Et puis ensuite, il tue sa femme Jeanne, tout simplement. Oui. C'est Myriam Boyer, la femme de Clovis la mère de Clovis Cornillac. Alors moi, j'avoue que j'aime pas ce film qui transpire du mal-être de Patrick Devers. Écoutez-le face à Drucker à Cannes cette année-là.
Patrick Devers est là également pour le film de Corneau, série noire qui représentait donc la France, qui est un film important. Et qui est un film épuisant. C'est-à-dire que je n'ai pas assisté au tournage, mais je suis sûr, d'ailleurs je crois l'avoir lu, que ce film, que ce rôle que vous a donné Corneau a dû vous laisser quelques traces dans les semaines qui ont suivi, non?
Oui, oui. J'étais tenu par quatre personnes, je voulais absolument me défenestrer. Je m'en souviens, ça a duré un mois.
Un mois,
ouais. Un mois, je voulais me suicider.
Vraiment?
Ah, je voulais mourir, parce que j'en avais marre du métier, j'en avais marre de tout. Je pensais que jamais j'arriverais à faire un film mieux que ça.
Voilà, moi je pense que c'est du vrai faux second degré, à la de Patrick Devers. Je ne suis pas sûre que Michel Drucker l'ait compris comme ça.
Non, parce qu'il devait être stupéfait de ce que l'on
disait. Et en tout cas, ça explique tout du film. Hein. Voilà.
Alors il y a également Men in Black sur Télé Monte Carlo.
Exactement, pour ceux qui appuient donc Télé Monte Carlo directement, parce que c'est une chaîne du groupe TF1. Absolument. Mais ce n'est pas tout, on a également sur W9 Marie-Lou Berry en vilaine, c'est le titre. Vilaine dont tout le monde abuse de la gentillesse et qui voudra devenir méchante après l'ultime humiliation de ses pseudo-copines.
Tu es tombée sur le seul handicap qui ne soit pas remboursé par la sécu. Tu vas voir qu'un jour, à force d'aider tout le monde, c'est moi qui pourras plus aider.
Oh non, 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 Mélanie, faites un effort. On le sait que vous n'êtes pas jolie, mais vous pourriez au moins essayer.
Voilà, et enfin, excusez du peu, on a, arrête-moi si tu peux, de Spielberg sur C8. Un tout petit peu long pour moi, mais l'histoire vraie de Frank, de Leonardo DiCaprio, qui n'ayant aucune identité précise, finit par les prendre toutes, alternativement pilote de ligne, médecin, avocat, fausse valeur, mais vrai faussaire, traqué par Tom Hanks, épatant en agent du FBI, fasciné par sa proie.
Un cinglé se balade en avion en se faisant passer pour un pilote. On l'appelle James Bond du ciel.
Hello, poupée.
C'est un gamin, c'est pour ça qu'il n'est pas fiché.
Je suis navré, madame. Votre fils fabrique de faux chèques.
Je travaille à mi-temps à l'église maintenant. Dites-moi combien il doit, je vais rembourser.
$1,300,000.
Je vais sélectionner 8 jeunes femmes qui deviendront les futures hôtesses de l'air de la Paname.
Don't tell me not to fly, I've simply got to.
Avec aussi Nathalie Baye.
Voilà, Nathalie Baye, c'est donc la mère qu'on a entendue au début de l'extrait. Et moi, pour moi, Sinatra, c'est l'un des principaux atouts du film.
Je suis content. Écoutez, ça nous fait une très belle soirée de télévision et de cinéma. Alors, acceptons-le avec plaisir. Dans quelques instants, on se dit au revoir, on vous fait gagner des cadeaux. En l'occurrence, le livre de Julien Sandrel. Et on accueillera Julien Courbet.
RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Cher Bernard Lehu, quel est le prénom du petit héros de la Chambre des Merveilles dont vous avez parlé ce matin ?
Louis.
Voilà. Si vous nous avez appelé au 3210, vous avez gagné ce livre, La Chambre des Merveilles, qui paraît aux éditions Calmann-Lévy, roman français qui a conquis le monde et qui a visiblement conquis le cœur de Bernard Lehu. Merci à tous.
Et demain,
grand rendez-vous. Bah alors,
Joël Dicker, là aussi pour son nouveau roman. Bon, la disparition de Stéphanie Meller, un polar trépidant.
On enchaîne les bouquins passionnants. Merci à toute l'équipe et nous accueillons maintenant Julien Courbet.
Bonjour Yves, comment allez-vous ?
Bah, on ne peut mieux.
Est-ce que les journalistes sportifs de RTL ont signé la pétition à l'occasion du match demain Madrid-PSG ?
Laquelle de pétition ?
Bah, sur Unai Emery. Ah, vous n'êtes pas au courant ?
Non, je n'ai pas suivi.
Ah bon, ils l'ont fait en chanson pourtant. Allô, tu es Unai Emery ? As-tu bien préparé ton match pour mardi ?
C'est bon aussi pour être prêt pour le mardi. Après, si tous les joueurs ils sont bien après de cet match, c'est bon. Les joueurs qu'il a entraîné à Paris aussi.
Ah bah oui, ça fait 2 ans que ça dure. Hein.
Applique-toi, parle français, parce que je ne comprends rien à ce que tu dis.
Et après, si tous les joueurs ils sont bien après de cet match, c'est bon. Les joueurs qu'il a entraîné à Paris aussi.
Les commentateurs pleurent dès que parlent. Quand tu nous parles français, on se croirait en plein cœur de Madrid. Voilà, c'était une pétition signée par les...
Alors, j'ai découvert cette pétition à l'instant grâce à vous, en fait.
Bon, écoutez, voilà. Signez-la si vous le souhaitez. En tout cas, alors, faites bonne chance.
Dev, vous faites très bien,
vous
Dev.
Vous faites bien, Julien. Dev, c'est vrai.
Donc, hein. Vous avez compris que c'était Dev. Parfait. Oui. Merci, Monsieur Cohen. Bonne journée.
Bonne émission.
Allez, on y va.
Vous écoutez RTL.